Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Un danseur qui ne s'entraîne pas et qui cherche pas en permanence, les choses, il reste pas sur place, hein. Il recule. Hein.
Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent d'écrire leur histoire.
Moi, j'ai longtemps pensé qu'il fallait cacher ses faiblesses. Vous pouvez pas dire au spectateur « Ah désolé, je me suis trompé, je refais quoi ». C'est impossible d'avancer si on se fixe un seul chemin.
Bon, eh bien, bonjour.
Bonjour.
Valentine Colasante, bienvenue sur Nouvelle École. Je suis ravi de te recevoir. En ce moment, je reçois des gens qui font des choses hyper intéressantes et que je trouve à peu près vraiment extraordinaires. Je vais te présenter rapidement. Tu es danseuse étoile à l'Opéra de Paris.
Exactement.
Tu as été nommée danseuse étoile, je crois que c'était le 5 janvier.
Exact. Ouais.
C'était à la suite d'une représentation de Don Quichotte.
Oui.
Parce qu'en fait, on est nommé danseur étoile par la directrice de la danse qui demande, je crois, au directeur de l'opéra.
C'est ça, exactement. Ouais. C'est pas sur concours. C'est le seul grade, en fait, le dernier grade de l'opéra qui est pas sur concours.
Et si je me souviens bien, il y a 4 grades. Il y a quadrille, coryphée, sujet, premier danseur. Et donc, parmi les premiers danseurs, parfois on peut être nommé danseur ou danseuse
étoile.
Exactement.
Ça fait très militaire comme ça, mais c'est une organisation. Enfin voilà, c'est une institution qui est ancienne et donc qui a gardé ces grades-là. Et c'est, ça paraît un peu vieux comme titre, mais en fait, en gros, c'est vraiment juste voilà, corps de ballet. Après, on est plutôt remplaçant quand on est quadrille et on accède à des rôles de corps de ballet, donc tous en groupe. Ensuite, coryphée, c'est du corps de ballet avec quelques remplacements de rôles de demi-soliste. Sujet, c'est demi-soliste, donc on commence à accéder à des pas de trois, des choses comme ça, et puis remplaçant de deux rôles de soliste. Premier danseur, on a des rôles de soliste et on est remplaçant de rôle d'étoile. Et ensuite, étoile, c'est le dernier... c'est le dernier stade dans la hiérarchie de l'opéra et ça se fait sur nomination du directeur. Voilà.
Parce que toi, t'es entrée à l'école de danse, t'avais quel âge à peu près ?
Alors, je suis rentrée à 8 ans, donc je suis vraiment un pur produit opéra de Paris,
ouais,
si
ouais.
On peut dire.
Mais c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire, là, t'as 29 ans, je crois.
Ouais, c'est ça.
Donc,
je viens d'avoir 29 ans.
En fait, ça veut dire que ça prend 20 ans, quoi, de devenir danseuse étoile.
Alors, il y a aucun parcours qui se ressemble. Il y a des danseurs étoiles qui sont nommés très très jeunes. Il y a un danseur étoile qui danse encore, qui s'appelle Mathieu Gagnon, qui a été nommé à 19 ans. Donc, et il y a des danseurs étoiles qui sont nommés à 40 ans. Donc, il n'y a vraiment pas de parcours type. Disons que c'est le rêve. Voilà, moi, c'est un rêve de petite fille. Et depuis que j'ai 8 ans, bien sûr, mon rêve, c'est d'être étoile. Donc, voilà, j'ai passé les concours et gravi les échelons avec des fois des échecs, avec des fois des moments plus difficiles que d'autres parce que la carrière est longue. Ça a toujours été un rêve de petite fille et ça reste encore, c'est encore quelque chose qui me paraît... c'est quelque chose qui reste encore... j'ai du mal encore à réaliser aujourd'hui tout ce qui s'est passé.
Comment tu te sens d'ailleurs parce qu'en... en fait, c'est une surprise. Quoi. Tu fais ta représentation de Don Quichotte et la tradition veut que ce soit une surprise à la fin. T'as la choix, je crois que c'est la directrice de la danse.
Oui, directrice de la danse qui propose...
Aurélie Dupont.
Aurélie Dupont, oui, c'est ça.
Qui arrive sur scène et qui t'annonce que tu es danseuse étoile.
C'est ça.
Et comment, donc tu ne le sais pas en fait, à ce moment-là?
Non, je ne le sais pas du tout. En plus, moi j'ai eu la chance d'être appelée 3 jours avant pour faire un remplacement. Donc en fait, comme je disais juste avant, c'est moi j'étais première danseuse. Donc en fait, on est remplaçant de rôle d'étoile et on se tient prêt au cas où il y a quelqu'un qui ne peut pas assurer le spectacle, blessé ou maladie ou voilà. On n'est pas des robots, donc bien sûr, il y a des moments où on joue avec notre corps, donc il y a des blessures. Donc on m'a prévenu 3 jours avant, donc je n'y ai pas pensé une seule seconde, parce que préparer un ballet comme Don Quichotte, donc, qui est l'un des ballets les plus difficiles du répertoire au niveau technique.
Pourquoi c'est un des plus difficiles?
C'est très très difficile techniquement, c'est un enchaînement de pas très complexe. Il y a plusieurs facettes dans le rôle. Le premier acte, on est dans... une ambiance espagnole, il faut être très festive, etc. Ensuite, il y a tout le deuxième acte qui est beaucoup plus intime, avec tout un passage féerique, où on retrouve vraiment les classiques, tous les plus grands classiques du répertoire, c'est-à-dire avec tous les tutus blancs, ça fait rêver avec la fumée, etc. Donc là, il faut être très féerique. Il faut pas du tout donner l'impression aux spectateurs qu'on est en train de forcer ou qu'il y a une difficulté. Et ensuite, le troisième acte, c'est...
Alors qu'il y a une difficulté terrible, non?
Bien sûr. Bien sûr. Ce qui est très difficile dans notre métier, c'est justement d'être en permanence dans... c'est un effort physique, mais ça ne doit pas transparaître. Donc, on est en permanence quand on est en spectacle, on cache cette difficulté, mais c'est aussi, c'est un entraînement depuis qu'on est tout petit. C'est-à-dire qu'on ne montre pas l'effort. Dans la danse classique, c'est un sport de haut niveau, mais on ne montre pas l'effort.
Ni la douleur d'ailleurs, parce que parfois j'imagine qu'il y a de la douleur quand, pour certaines positions, on doit tomber sur un os ou des choses comme ça.
Non, mais bien sûr que c'est un métier qui est très difficile, mais qui est aussi un art, et avant tout un art. Donc notre but, c'est de faire rêver les gens, de pouvoir raconter des histoires, de pouvoir les faire partir dans un... Voilà, on n'est pas du tout aux Jeux Olympiques avec un chrono et qui fait le meilleur temps. Voilà, c'est pas du tout ça. C'est on joue beaucoup plus sur la sensibilité, sur toucher le public. C'est vraiment un spectacle, c'est un art. Après, au quotidien, c'est un sport. Parce que il faut énormément d'entraînement pour masquer justement les difficultés et entraîner son corps de manière à ce qu'il soit résistant comme un sportif de haut niveau, quoi. Parce que quand il faut faire ce genre de performance, voilà, par exemple Don Quichotte, c'est 3 actes, donc c'est presque, ouais, c'est 2h30 de ballet où on est presque tout le temps en scène. Donc c'est un vrai marathon. Et quand on sort de scène, c'est pour des changements de costume. Donc c'est vous commencez à 7h30, vous finissez à 10h du soir et vous avez tout donné, quoi. Et par contre, le public, si vous avez réussi, il ne doit pas du tout une seule fois sentir la fatigue ou...
Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est la marque de la réussite du spectacle. Ou pour, en tout cas, pour un premier danseur.
Oui, c'est l'objectif ultime d'un danseur. C'est-à-dire, c'est de vivre à fond l'émotion et rentrer complètement dans son personnage et se laisser porter par ce personnage ou par la performance ou par... Après, dans les ballets contemporains, c'est encore différent. Mais c'est quelque chose qui est très important pour nous. Enfin, moi, quand je me prépare pour un spectacle, je me conditionne vraiment mentalement.
Comment tu fais? C'est quoi ton conditionnement?
C'est énormément de concentration. C'est 2-3 heures avant le spectacle. C'est être vraiment... Je me mets dans une bulle. Je répète tous les pas dans ma tête. J'essaie de me calmer. J'essaie de gérer le stress parce qu'il y a aussi beaucoup de stress avant une représentation.
Tu fais quoi pour te calmer?
Alors moi, je respire. Je fais beaucoup d'exercices de respiration. Ça pourrait s'apparenter à du yoga, mais c'est des exercices qui sont très personnels et que j'ai développés au fur et à mesure. Donc j'ai toute ma petite série d'exercices pour me calmer que j'ai créé en fait finalement avec le temps. En fait, je pense que chaque danseur, il n'y a pas de méthode clé.
Et vous en transmettez des exercices?
Bien sûr, on se donne des conseils entre nous, on essaie de bien sûr. Enfin, il y a beaucoup d'entraide aussi. Hein. Donc il faut vraiment après il faut trouver son propre moyen, sa propre manière de se calmer, de faire baisser la pression et de pouvoir être au maximum, disons, le plus dans une forme physique optimale, que ce soit mentale, physique, il faut du stress dans un spectacle.
C'est, ah ouais,
bah, c'est l'adrénaline, c'est ce qui vous pousse, c'est ce qui vous pousse à vous dépasser, c'est ce qui vous pousse à relever des défis ou voilà, à être au maximum de vos capacités. Quand il n'y a pas de stress, vous n'êtes pas au maximum de vos capacités.
Ah, tu veux dire que c'est un indicateur pour toi que tu es en train de pousser tes limites?
Moi, je sais qu'avec le stress, si vous arrivez à le contrôler, ça n'a pas toujours été le cas. C'est, quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé ma carrière, le stress, des fois, me mettait en péril parce que je n'arrivais pas à le dominer. Depuis quelques années,
ça faisait faire des erreurs, tu veux dire?
Oui, ça me faisait faire des erreurs parce que vous voulez bien faire ou parce que vous sentez des faiblesses, parce que le stress vous par exemple perturbe les jambes ou vous avez les jambes dans du coton ou après chacun a ses symptômes.
Et à ce moment-là, tu réfléchis quand tu fais ta performance, quand tu danses.
Quand ça vous est arrivé plusieurs fois. Au fur et à mesure, on est surentraîné depuis qu'on est tout petit. On a l'habitude d'être en scène, donc après un moment, il faut que ça devienne comme chez nous. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, des spectacles, on apprend à dominer ce stress, on arrive de plus en plus à le canaliser et à le transformer en énergie positive. C'est ça le but. Et c'est vraiment d'apprendre à canaliser son stress. Et en fait, c'est une recherche en permanence sur la connaissance de soi. Et la danse, c'est que ça. C'est une recherche en permanence, au quotidien, sur soi-même, comment dompter son corps, comment le maîtriser, comment gérer son mental, voilà. Et je dis pas que j'ai tout appris. J'ai encore plein de choses à apprendre. C'est juste que je vois par rapport à il y a quelques années, quand le stress est présent avant un spectacle, c'est plus quelque chose qui me fait peur. C'est quelque chose que j'arrive à apprivoiser. Voilà, comme un animal de compagnie où je me dis, bah, il est là, mais il va m'aider. Parce que vous allez être moins fatigué avec le stress. Quand on est stressé, on a une adrénaline qui fait que vous avez moins de fatigue. Vous vous sentez aussi une espèce de... Ouais, c'est l'adrénaline du one shot, quoi. Vous avez pas le choix, il faut y aller. Et c'est maintenant, et c'est pas en répétition où on peut pas recommencer, quoi. Vous pouvez pas dire au spectateur, désolé, je me suis trompé, je refais, quoi. Donc voilà, il y a une.
C'est la répétition qui fait que le stress descend ou que t'arrives mieux à le maîtriser. C'est le fait de l'avoir fait et refait et refait.
Ouais, moi je fonctionne beaucoup comme ça. C'est si j'ai bien préparé, que je me sens en confiance, que j'ai beaucoup travaillé en studio, que je sais parfaitement ce que j'ai à faire en spectacle. Avec le stress, ça devient quelque chose qui me libère et qui devient porteur de sens et artistiquement aussi. C'est-à-dire que ça, vous êtes concentré. Enfin, moi, ce qui se passe en scène, c'est que le stress disparaît au fur et à mesure et je suis portée que par l'histoire. Vous pensez même plus à la technique parce que c'est travaillé, c'est acquis. Et après, bien sûr, il n'y a aucune représentation qui est parfaite. Après,
Comment ça? Tu fais toujours des erreurs?
Bien sûr.
Et tu les vois, tu les sens quand tu les fais?
Bien sûr, mais après, tout notre art, c'est justement de déguiser, de masquer, de pas le montrer, de rebondir dessus. Voilà, c'est des...
Mais c'est peut-être des erreurs. Est-ce que c'est des erreurs qui sont certainement même imperceptibles à l'œil normal?
Bien sûr.
Comme un restaurant 3 étoiles où il y aurait une erreur, mais on s'en rendrait jamais compte, quoi.
Mais bien sûr, c'est imperceptible. C'est imperceptible pour le spectateur parce qu'il y a un spectacle, parce qu'il y a des décors, parce qu'il y a une atmosphère et donc, du coup, c'est imperceptible pour le spectateur. Moi, je le sais. Il y a que moi qui le sais. Et si le spectateur s'en rend compte, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à bien maîtriser le spectacle. On n'est pas, c'est pas un art parfait. Il n'y a pas de perfection dans la danse. C'est pas quelque chose. C'est ça qui est très difficile, je pense, pour un danseur. C'est en permanence de souffrir d'une certaine imperfection. On est en permanence devant le miroir. On est en permanence en train d'essayer de se corriger depuis qu'on est tout petit. Il faut accepter aussi qu'on n'est pas parfait et qu'on est des artistes. Et que ça, c'est des choses que j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que...
Qu'est-ce qui fait que tu les... Vas-y, dis-moi, je te coupe pas.
C'est des... Que le public aussi aime voir les faiblesses des danseurs. Enfin, c'est aussi, on est des artistes. Et si on se cache en permanence devant quelque chose de très... comment expliquer? Si on pense qu'à la performance purement sportive et technique, on ne va pas toucher les gens.
C'est intéressant ce que tu dis parce que en art, c'est souvent, en effet, la beauté est souvent dans les imperfections. Mm-hmm. Mais alors, ça ne veut pas dire l'amateurisme, quoi. Non, ça veut dire une certaine imperfection à la limite de...
C'est montrer ses faiblesses aussi, montrer ses fragilités et s'en servir comme des atouts.
Tu veux dire, est-ce que c'est ce qui permet, par exemple, au public de s'identifier à tel ou tel danseur ou de préférer celui-ci ou celle-là?
Bien sûr.
Parce qu'il y a ses imperfections qu'il aime bien chez cette...
Bien sûr, et ses faiblesses et ses failles et sa sensibilité. Un artiste qui va être... qui va, par exemple, reproduire à la perfection par exemple, je pense à un peintre. Un peintre qui va reproduire à la perfection le tableau d'un artiste. Est-ce que vous allez être touché? Non. Vous allez être touché s'il apporte sa patte, s'il apporte quelque chose de nouveau, s'il recrée ce tableau avec sa propre interprétation. Nous, c'est ça notre rôle. Moi, je suis interprète. J'essaye de, à chaque fois qu'on me donne un rôle à danser ou que j'ai un spectacle à danser, j'essaye de le refaçonner, de le repenser à ma manière, avec mon corps, avec mon physique, avec mon interprétation, avec ce que j'imagine du personnage ou du rôle. Donc, et je pense que c'est comme ça qu'on touche les gens. Moi, j'ai longtemps pensé qu'il fallait cacher ses faiblesses.
C'était quoi tes faiblesses alors?
Pour être un bon danseur. Je suis quelqu'un de très sensible, un peu trop émotif des fois, et j'avais du mal à gérer mon stress. Donc, c'est des choses que j'essayais de cacher. Je me disais, je me mettais une façade en me disant, bon, là, Valentine, avant d'entrer en scène, tu te blindes,
Tu fais comment pour te blinder?
C'est mental. Il faut essayer de... Je me disais, tu fais abstraction de tout ce qu'il y a autour, et puis tu... Mais c'est faux. C'est pas la bonne méthode. Je pense que justement, il faut être le plus à l'écoute possible par rapport à tout ce qui se passe autour et pouvoir être le plus à même possible de réagir à, enfin, quelle que soit la situation en scène. Parce qu'un spectacle, c'est un spectacle vivant. Ça bouge en permanence. Vous allez avoir des interactions avec d'autres danseurs. Vous pouvez pas tout préparer, vous pouvez pas tout calculer.
Tu veux dire qu'il faut pas être un robot en quelque sorte?
Non, il faut être attentif, il faut être préparé et assez calme pour pouvoir être à l'écoute des autres danseurs, à l'écoute de son partenaire, parce que souvent on danse à deux aussi. Donc c'est une espèce de symbiose qui doit se faire. Et quand cette symbiose marche, c'est là où ça devient magique.
Mais est-ce que tu t'es satisfaite de tes performances en général, ou est-ce que t'es plutôt du genre à te dire peut mieux faire?
C'est très rare qu'un danseur sorte d'un spectacle et soit heureux, ou enfin soit disons soit parfaitement content de tout ce qu'il est fait. Non, moi je pense qu'en je suis pas quelqu'un qui va me mutiler après un spectacle ou être triste, voilà. J'essaie juste d'améliorer en permanence et d'essayer de comprendre à chaque fois ce qui s'est passé, si c'était bien. Là, un spectacle, c'est pas noir ou blanc. Un spectacle, c'est il y a souvent des
comme
bonnes
tout,
choses,
en fait,
il y a aussi des voilà, exactement, il faut juste prendre le positif, je pense, de chaque représentation et avancer avec ça. Et un spectacle qui se passe pas bien, c'est aussi souvent une clé, une porte qui va s'ouvrir parce que vous avez trouvé, vous comprenez pourquoi ça s'est pas bien passé à ce moment-là et
oui,
vous trouvez des solutions.
Il faut comprendre pourquoi ça s'est pas bien passé en effet. Est-ce que toi tu vas analyser à chaque fois les
bien
choses?
Bien sûr, à chaque fois il y a une vraie analyse du spectacle.
Elle se fait comment? C'est toi qui tu regardes des vidéos? Comment ça se passe?
Alors ça dépend. On n'est pas tout le temps filmé. Des fois je demande à me filmer parce que le support vidéo est quand même très utile pour se rendre compte de certaines choses, des fois. Après, je pense qu'on est... Je suis plus dans un métier où c'est la sensation et la réunion entre... Vraiment, l'union entre le mental et le physique. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est très personnel et qui doit être... c'est... Personne peut vous aider. On a des coachs pour ça, mais je pense que c'est très personnel. Il faut avoir une recherche... Moi, j'y réfléchis beaucoup seule. À comment essayer d'améliorer les choses, pourquoi j'ai eu cette peur à ce moment-là, par exemple, sur quelque chose technique dont j'avais pas peur avant, et pourquoi en spectacle j'ai eu peur.
Tu le fais immédiatement après le spectacle?
Ça dépend vraiment. Il y a des fois aussi, après un spectacle, Je suis humaine et j'ai juste besoin de parler avec mes proches qui sont venus me voir, prendre un petit verre de vin rouge et puis me détendre, quoi.
Tu peux faire la fête, toi, ou pas?
Bah, faire la fête, on est humain, quoi. Moi, je pense que c'est très important. Un artiste qui danse toute la journée, qui prend jamais aucun jour de repos, qui se nourrit de rien d'autre, je suis pas sûre que ce soit un artiste épanoui. Non, moi, j'ai des amis, j'ai une vie de famille. voilà, je sors avec des amis. Ça m'arrive de boire du vin rouge, bien sûr. Non, il n'y a pas de... Après, bien sûr, on a une hygiène de vie qui n'est peut-être pas considérée comme normale, si je puis dire. On a notre outil de travail, c'est notre corps.
C'est quoi l'hygiène de vie d'une
danseuse? L'hygiène de vie, c'est un cours tous les matins, d'une heure et demie, avec une barre, avec des exercices qu'on répète depuis qu'on est tout petit. Donc ça, c'est...
Les mêmes exercices? Est-ce que certains exercices sont restés les mêmes depuis 20 ans?
Oui, c'est une combinaison de pas différentes, mais ce sont les mêmes exercices. On commence par les pliés, les dégagés, les battements, les rondes de jambes à terre. Voilà, on a toute une... Enfin, je vais pas tous les citer, ce serait trop long. Mais on a tout un enchaînement d'exercices qui se fait tous les matins. Et c'est notre sorte de... Moi, c'est ma thérapie. C'est une sorte de... Voilà, c'est une sorte de yoga où on nettoie le corps des spectacles de la veille, des toxines de la veille, où on remet les choses à plat, voilà.
C'est un plaisir c'est comme la méditation un peu, ou...
Ah, moi, c'est un vrai plaisir d'aller au cours tous les matins.
Ah oui?
Ah oui.
Même après aussi longtemps?
Bien sûr. Ah oui, c'est toujours un plaisir parce que on est en permanence dans la recherche de quelque chose. On va pas au cours pour faire, c'est pas un entraînement, juste comme ça pour se maintenir en forme. Non. Un danseur, c'est comme, pour moi, comme la bicyclette. Sauf que elle est en montée. Un danseur qui ne s'entraîne pas et qui cherche pas en permanence des choses, il reste pas sur place, hein. Il recule. Hein.
Ça, mais du coup, elle te vient d'où, toi, cette exigence? Qu'est-ce qui fait que certains, pour les danseurs, mais dans plein d'autres domaines, c'est pareil, certains ou certaines vont tous les jours arriver en se disant, cette fois, il faut que je monte encore un peu plus, et d'autres non?
Je crois que je suis quelqu'un de très passionné, je crois que j'aime profondément ce que je fais, et c'est vraiment... C'est quelque chose qui fait partie de ma vie, la danse, depuis que je suis toute petite. C'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui me transcende. Enfin, je pense que c'est difficile d'expliquer. C'est quelque chose qui m'anime et j'en ai besoin. J'aime danser, j'aime profondément danser. C'est un moyen d'expression pour moi. Donc c'est quelque chose qui fait partie de ma vie et qui, je ne conçois pas la danse autrement que... Je ne conçois pas mon métier autrement que quelque chose qui est en permanence en progression, quelque chose qui va m'aider à me dépasser. Et voilà, c'est pour moi le sens de mon métier. Enfin, c'est me dépasser, c'est pouvoir transmettre toujours plus des émotions au public, toucher des gens, faire rêver. Je pense que c'est très important, surtout dans la société actuelle, d'avoir des...
Pourquoi dans la société actuelle?
Je pense que il y a beaucoup de... Voilà, il y a des... C'est, comment dire, il y a beaucoup de jeunes qui savent pas forcément ce qu'ils ont envie de faire ou qui se demandent. On parle beaucoup de communication, il y a beaucoup de réseaux sociaux, il y a beaucoup de, voilà, on parle ouverture des médias, on est au courant de tous les problèmes sur la planète entière. On a énormément d'infos en permanence et on a peu de temps pour rêver, pour se poser, pour... Voilà, c'est rare les moments où, même quand moi j'essaye de lire un bon bouquin, on est en permanence perturbé par le téléphone, et je pense que un spectacle à l'opéra, par exemple, voilà, d'aller voir, je sais pas, quand les gens ils sont dans la salle pendant une heure et demie et qu'ils sont avec vous, bah, vous avez envie de les transporter, vous avez envie de les faire rêver, et c'est pour ça que ça passe aussi par un cours le matin, par une hygiène de vie, par tout ça. C'est pas miraculeux. On n'arrive pas au spectacle, on fait pas rêver les gens comme ça. Il faut une maîtrise technique incroyable, il faut une précision de chaque instant. Donc ça s'invente pas, voilà. Donc après, si j'ai pas la prétention de faire rêver tout le monde, etc. Hein, mais en tout cas, c'est mon souhait le plus cher. Enfin voilà, c'est de pouvoir communiquer des émotions et faire une parenthèse des fois dans une vie qui va très très vite en ce moment.
Tu penses que c'est, à ton avis, les facteurs vraiment, comment dire, les facteurs clés qui vont mener un danseur ou une danseuse à devenir premier danseur ou danseuse étoile, tu vois que c'est vraiment qu'une question de quantité de travail, ou est-ce qu'il y a une notion de dîner aussi? Je demandais ça en fait à Yannick Agnel récemment, c'est récent que je pose des questions, mais ça m'intéresse parce que là on est vraiment tout en haut de la performance, quoi. Et donc je me demande, est-ce qu'en fait tout le monde peut y arriver en commençant tôt et en ayant le bon environnement, disons, et en travaillant tout le temps, ou est-ce que vraiment parfois on arrive et on se dit non mais cette personne est beaucoup trop forte par rapport à moi, déjà de par rapport à ses caractéristiques innées?
Je pense qu'il y a des caractéristiques innées. Dans la danse, il y a des choses qui il y a des critères physiques qui sont malgré tout importants, mais qui sont de moins en moins vrais, parce que je pense que chaque corps, s'il est pris tôt, bien sûr, si vous commencez la danse classique à 25 ans, ça va être compliqué de faire une carrière et de devenir danseur étoile, ça c'est sûr. Après, si vous commencez
tôt... Qu'est-ce qui est considéré comme trop tard?
Mais je pense qu'il n'y a pas de règle, parce que il y a des danseurs qui commencent à 14-15 ans et qui arrivent à devenir de très bons danseurs. En plus, maintenant, il y a énormément de danse. Il n'y a pas que la danse classique. Il y a la danse contemporaine, il y a le hip-hop, il y a plein d'autres... voilà. Là, si on parle de danse classique pure, oui, en effet, la danse classique pure, si vous commencez pas tôt, ça va être très compliqué. Tôt, c'est 10 ans. Moi, je dirais... moi, j'ai commencé à 5 ans. Donc, vous voyez, c'est... C'est la danse classique a des critères, certes physiques. Ce serait mentir de dire qu'il y en a pas. C'est pas vrai.
D'ailleurs, dans la sélection, je crois que au départ, il y a des évaluations à la fois de compétences, mais aussi physiques,
bien sûr,
selon des critères pour
bien
voir
sûr
si le corps va évoluer pour être compatible en fait avec ce qu'on attend de la morphologie d'un danseur ou d'une danseuse.
Bien sûr. Après, parmi tous ces critères physiques, il y a quand même énormément de parts laissées à la volonté, à l'envie, au côté artistique de quelqu'un. Vous pouvez avoir un danseur qui va être très doué et qui ne va rien exprimer artistiquement.
Même chez des enfants très jeunes, on va regarder ce qu'ils expriment artistiquement.
Oui, il y a une personnalité qui compte. Il y a beaucoup...
C'est décelable déjà très tôt.
Oui, ouais. La personnalité des danseurs, enfin moi ça m'arrive de voir des danseuses de 8-9 ans qui sont peut-être pas forcément les plus douées de la terre, mais qui ont quelque chose à dire, ou qui ont une personnalité à part et qui vont forcément susciter la curiosité et qui vont moi je pense que tout se travaille, le corps se modèle, on peut faire ce que l'on veut avec son corps si on a un cerveau bien rempli et qu'on se pose les bonnes questions. Je pense qu'il faut être bien entouré, c'est un métier où il faut être bien entouré, où il faut
Mais l'entourage, du coup, c'est quelque chose que, à cet âge-là, on choisit pas trop, finalement. Soit on a un bon entourage, soit on a un mauvais entourage, non?
Non, je pense qu'il faut être, si on aime vraiment ça, il faut demander conseil. Je pense que, aussi, il y a des institutions qui sont très connues et où il n'y a pas besoin d'argent, où il n'y a pas besoin de connaissances pour rentrer. À l'école de danse, c'est une audition. Voilà, vous rentrez à l'école de danse de l'Opéra de Paris sur audition. C'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à toute la France, c'est ouvert aux étrangers, c'est ouvert à tout le monde. Et voilà, et après, vous avez quand même l'opportunité de faire un parcours à l'école de danse, par exemple, qui est tout à fait gratuit. Et si vous aimez vraiment ça...
Ça a l'air extrêmement difficile, l'école de danse. Je regardais, il y a un documentaire qui s'appelle « Tout près des étoiles », je crois.
Ouais.
Tu vois lequel c'est?
Oui, je vois.
Ouais. Et que j'ai regardé, et c'était super intéressant. Et je me disais, waouh, je voyais des filles, des garçons de 9 ans, 10 ans. Et je me disais, mais comment ils font pour avoir une telle exigence, déjà, en fait? Il y a une vraie exigence, une vraie rigueur, quoi. Déjà,
alors, je pense que quand même, quand on est tout, tout petit, je pense qu'il y a un vrai amour pour la danse, c'est une vraie passion, mais je pense qu'on le fait plus, on n'est pas parfaitement conscient de ce qu'on fait. En tout cas, là, je parle pour moi, quand j'étais toute petite, j'aimais danser, j'aimais m'exprimer, mais je me rendais pas vraiment compte de ce que ça représentait. C'est après, quand on grandit, à 12-13 ans, qu'on se rend compte, mais est-ce que j'ai envie d'en faire mon métier? Est-ce que je suis assez douée? Est-ce que je sacrifie pas mon enfance? Est-ce que, voilà.
Là. Tu t'es posé ces questions à 12-13 ans?
12-13 ans, je me suis posé les questions,
Est-ce que t'as l'impression que ça fait grandir plus vite?
Bien sûr. Bien sûr.
Parce que moi, tu me dis ça, moi, c'est plus à 20 ans que je me suis dit, est-ce que je suis en train de faire?
Non, bien sûr, il y a une maturité qui, malgré nous, arrive très vite parce que on est autonome. Quand vous rentrez à l'école de danse, vous êtes en internat pour la plupart. Parce que même, par exemple, mes parents habitaient Paris, mais ils travaillaient, ils pouvaient pas venir me chercher matin et soir à l'école de danse à Nanterre. Donc c'est vrai que vous faites vos valises à 8 ans, vous êtes autonome, vous vivez sans vos parents, vous rentrez le week-end, donc c'est... vous grandissez plus vite, ça c'est sûr. Vous n'avez pas les mêmes raisonnements, vous n'avez pas, les mêmes priorités qu'un enfant de 12-13 ans, ça c'est sûr.
En fait, toute ta vie est à l'école de danse quand tu rentres à l'école de danse quasiment, non ?
Après, je rentrais le week-end. J'avais mon frère et ma sœur qui avaient une vie plus normale que moi, si je puis dire. Donc, je voyais bien comment ça se passait pour des enfants de mon âge normalement. Mais vous êtes dans un... vous êtes dans un espèce de... comment dire ? C'est... vous avez envie, ça vous plaît, vous dansez toute l'après-midi, vous faites l'école le matin, enfin... moi, j'aimais profondément la danse. J'ai pas du tout eu l'impression de faire un sacrifice. Après, oui, c'est dur. Bien sûr que c'est dur. C'est un métier qui demande énormément d'exigences. Tout petit, on n'est pas forcément... c'est pas un métier où on vous dit tous les jours que vous êtes formidable. Hein.
C'est quel genre de... qu'est-ce qu'on vous dit, d'ailleurs ?
Il faut nous faire avancer, il faut on insiste plus sur les défauts que sur les qualités. Il faut progresser. Alors après, chacun le vit très différemment. Moi, j'ai des professeurs avec qui ça s'est très bien passé, et j'ai des professeurs avec qui ça s'est moins bien passé. Ça, je pense que c'est comme n'importe quel rapport d'humain à humain. Je pense qu'il y a des feelings aussi. Il y a des professeurs qui correspondent mieux que d'autres.
Tu dis tout à l'heure que t'es très sensible. Mais il y a un peu un côté machine à broyer les faibles. Je crois qu'ils ont employé l'expression dans le documentaire.
Oui, bon, alors moi, je trouve ça toujours un peu exagéré quand on dit ça. Mais...
Non, mais moi, j'en ai aucune idée. C'est juste qu'ils disaient ça dans le documentaire. L'expression était forte, je trouvais. Et je me disais, mais quand tu disais que tu étais très sensible, je me disais, ouais, enfin, très sensible, tu as quand même pour faire 20 ans là-dedans et arriver à devenir dans ce
sujet. Non, mais ça, c'est sûr et certain que si vous êtes juste sensible et que vous vous effondrez à chaque remarque qu'on peut vous faire, c'est pas la peine. Ça, c'est sûr, vous êtes obligé. Enfin, moi, je me suis forgé un caractère, où je me suis vraiment, blindé. Il faut se blinder dans ce métier. C'est très difficile.
Comment tu fais pour te blinder? Est-ce que t'as l'impression d'avoir progressé à ce niveau-là?
Bien sûr. Mais c'est, on progresse malgré soi. On n'arrive pas toujours à, voilà. Enfin, moi, par exemple, quand je suis sortie de l'école de danse, je pensais que en rentrant dans la compagnie, tout allait être tout rose, quoi. Je me suis dit, ah bah voilà, c'est super, t'es rentré dans la compagnie, c'est formidable. Maintenant, tu vas commencer à gagner ta vie avec ça, tu vas pouvoir faire ton métier tous les jours. Mais non, là d'un coup, on prend conscience que c'est une entreprise où il y a beaucoup de danseurs, où il y a encore des concours à passer, où il y a de la concurrence. Ou pour danser, il va falloir travailler d'arrache-pied. Donc vous vous rendez compte, très vite, moi je me suis rendu compte que c'était loin d'être fini, quoi, et que ça venait de commencer. Donc en permanence, il y a des étapes. Moi quand j'ai commencé, j'étais un peu naïve, je voulais juste danser avec ma petite sensibilité. Quand on me faisait une petite réflexion, je me mettais à pleurer ou j'allais le week-end me plaindre à mes parents. Mais c'est après, au fur et à mesure, vous vous rendez compte que c'est pas ça qui vous fait avancer, de vous plaindre. Parce que finalement, moi, j'étais persuadée que je voulais faire ça.
Tu avais un objectif très clair, en fait, d'où tu voulais aller, c'est ça ?
Ah, mais bien sûr.
Tu penses que ça a été important ?
Moi, c'est ce qui m'a aidée. Ouais.
De savoir où tu voulais aller.
Ouais. Ça, c'est clairement c'est ce qui m'a sauvée dans plein de situations. J'ai pas toujours réussi les concours, j'ai pas toujours eu la vie facile. Enfin voilà, je suis pas forcément quelqu'un de hyper doué à la base. Il a fallu que je travaille beaucoup.
Pourquoi tu dis ça ? T'avais le sentiment d'être moins doué que d'autres ?
Oui, forcément. Enfin, je veux dire, il y a des...
Donc là, c'est la question que je te posais un peu tout à l'heure, tu vois. Reviens sur le côté... parce que souvent j'entends ouais mais il est plus talentueux, c'est normal qu'il ait réussi, mais j'ai l'impression que les prédispositions naturelles sont souvent compensées par des gens qui travaillent plus ou...
Bien sûr, après j'étais pas niée pour la danse, j'avais quand même des prédispositions, j'avais pas toutes les prédispositions, et c'est là où c'est rare de rencontrer quelqu'un qui est complètement niée pour la danse. Il y a des prédispositions chez chacun, je pense, pour danser. Il faut juste savoir ce qu'on en fait et avoir vraiment envie et être déterminé. Après, il y a aussi peut-être un facteur chance, je sais pas, d'avoir une bonne fortune, d'être toujours positive et d'essayer de saisir les bons de saisir les opportunités qui peuvent se présenter à nous. Moi, toute ma carrière, c'est ça, c'est avoir, ça a été à des moments rencontrer une bonne personne, à un bon moment, qui a su me dire ce qu'il fallait que j'entende, ou une opportunité, un remplacement à faire, et réussir à remplacer au pied levé sans me déstabiliser. Voilà, enfin, ça a été plein de petites opportunités. Qui font que aussi, c'est là où je dis qu'il y a peut-être aussi une part de chance dans une carrière, c'est-à-dire qu'il faut être là au moment où on va vous donner quelque chose et il va falloir le prendre.
Donc, ouais, mais tu maximises tes chances d'être là si tous les jours tu fais le travail que tu fais depuis le début.
Exactement,
en fait.
C'est-à-dire que je pense qu'il faut être en permanence avec un objectif bien précis en tête et saisir toutes les opportunités qui se présentent, toutes. Vraiment toutes.
Pourquoi t'insistes sur vraiment toutes?
Parce que c'est très facile de se dire bon bah ce sera pour quelqu'un d'autre ou bah moi finalement je suis moins douée ou bah finalement là aujourd'hui je suis fatiguée ou bah j'ai pas envie ou c'est très facile de rentrer dans quelque chose de plus de se dire bon bah c'est réservé à quelqu'un d'autre que moi. Voilà, moi je me suis jamais dit ça. Je me suis jamais dit quand on me disait t'y arriveras pas, parce qu'on me l'a
on
dit.
On l'a dit.
Bien sûr qu'on me l'a dit. Quand je suis rentrée.
Qui te l'a dit?
Bah, ça peut être des professeurs, des collègues, des gens de l'extérieur. Je pense qu'il faut jamais se laisser abattre par quelqu'un qui va vous prédire un futur. Voilà. J'ai jamais écouté les gens qui me prédisaient un futur, que ce soit en bien ou en mal. Je pense que c'est très important d'être vraiment fidèle à ce que l'on pense qu'on est capable de faire. Et je pense que les capacités de l'être humain sont illimitées. Et je pense que quand on ne se fixe pas de limites, et justement quand on ne se fait imposer par personne d'autre un futur ou une évolution de carrière ou quelque chose, je pense qu'on va bien plus vite et bien plus loin que quelqu'un qui va être prédestiné, par exemple, même à un superbe avenir, et à qui on va ouvrir toutes les portes, et puis en fait, il va se rendre compte peut-être que bah, c'est pas forcément ce qu'il voulait.
C'est en ça que tu dis en bien. Faut même pas écouter en bien.
Oui, enfin moi, que ce soit les compliments ou les reproches, je pense qu'il faut être très vigilant par rapport à tout ça. Il faut être vraiment dans quelque chose de plus simple, je pense. Il faut juste simplement savoir essayer. Je dis pas que c'est évident. Mais essayer de se fixer ses propres objectifs sans l'avis des parents, de la famille ou des pressions sociales ou de l'argent ou du milieu dont on vient, enfin, d'où l'on vient. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être profond, intime à soi. Et je pense qu'il faut pas se laisser déstabiliser. C'est ça qui est très difficile dans notre métier, c'est se laisser déstabiliser des fois par des jugements ou des échecs, parce qu'on en a beaucoup aussi, des échecs dans notre métier. Et après, vous avez deux possibilités quand vous réussissez pas quelque chose. Moi, mes deux premiers concours, par exemple, à l'opéra, je les ai ratés. J'ai pas réussi mes deux premiers concours. Alors après, soit vous dites bon bah c'est un échec.
Consécutivement, tu les as ratés.
Consécutivement,
c'était les concours pour
les deux premiers pour monter corrigé le premier
d'accord,
grade.
D'accord.
Donc les deux premiers, le premier, je me suis complètement laissée avoir par le stress. J'étais complètement paniquée. C'était mon premier concours à l'opéra. Je me suis mis une pression bien trop grande alors que je jouais pas ma vie. Et donc bon bah j'ai complètement perdu mes moyens. Et le deuxième, c'était je m'étais mis trop
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je m'étais mis presque trop la pression en me disant bah tu n'as pas le choix, là tu l'as raté l'an dernier, il faut que tu le réussisses, voilà. Et donc catastrophe.
Conduire.
Voilà. typique. Typique cas, le permis de
c'est
conduire.
C'est l'histoire du permis de conduire, ça.
Plus on se dit, plus. Non, mais voilà. Non, mais
c'est vrai, la première fois, c'est trop.
Exactement.
Ah, la deuxième fois, c'est oh là là, je l'ai raté. Si je le rate, ça veut dire qu'il faut que je le passe trois fois.
Voilà, non, mais après, il y a les dictons idiots, jamais 203. Et bon,
ouais.
Donc, en fait, en gros, j'ai essayé de me faire mon propre lavage de cerveau de tout ça et d'essayer juste d'arriver à mon troisième concours avec mon envie, avec ma personnalité, avec mes défauts, avec mes qualités. Et de faire avec, et ça a marché.
Est-ce que tu crois que le fait, parce que tu t'es dit alors que je jouais pas ma vie, est-ce que tu crois que pour la troisième tentative, t'avais compris que tu jouais pas ta vie?
Oui.
Et du coup, c'était plus facile?
Oui, je pense qu'il faut pas être, quand je dis se fixer des objectifs, je dis pas qu'on peut pas changer d'objectif en cours de route. Je dis juste qu'il faut savoir où l'on veut aller, et après, en fonction des opportunités, en fonction des portes qui s'ouvrent, savoir slalomer, se rebondir d'étape en étape, de porte qui s'ouvre. Alors, c'est peut-être pas celle-là qu'on voulait, mais il y a une autre porte qui s'ouvre. Alors, on va aller voir, on va peut-être dériver un petit peu.
C'est intéressant ce que tu dis, c'est peut-être pas celle-là qu'on voulait. C'est que parfois, il y a plein de chemins différents pour aller au même résultat.
Mais bien sûr.
Et le risque, parfois, c'est de se dire, non, mais je voulais faire j'avais dans ma tête, dans mon rêve, dans mon fantasme, je voulais faire les choses de cette façon, via cette trajectoire, et du coup, de refuser des opportunités.
Ah, mais je pense que c'est très... C'est impossible d'avancer si on se fixe un seul chemin. C'est-à-dire que si vous vous persuadez qu'il n'y a qu'une seule porte qui peut ouvrir quelque chose ou un objectif que vous vous êtes fixé, ça va être très compliqué. Il va falloir attendre que cette porte s'ouvre. Elle s'ouvrira peut-être jamais. Et en attendant, vous allez perdre beaucoup de temps.
En fait, c'est toute la question de est-ce que je vais laisser des paramètres extérieurs décider de ma réussite ou est-ce que je ne vais pas les laisser décider de ma réussite? Parce que si, quand tu attends... Quand tu as une seule trajectoire en tête, forcément, quelqu'un doit t'ouvrir la porte.
Exactement.
Alors que quand on a plein en tête, tu peux aller juste ouvrir plein d'autres
exactement.
Portes.
Exactement. Et c'est exactement ça. Et c'est ce que j'ai compris quand je suis rentrée dans la compagnie, où je me suis dit, si je veux m'épanouir et si je veux me donner le maximum de possibilités, il va falloir réfléchir différemment. Parce que ça ne marche pas. En tout cas, sur moi, c'était vraiment flagrant. Ça ne marchait pas. Cette méthode de penser, il y a une porte qui doit s'ouvrir, ça ne marchait pas pour moi. Ça me frustrait beaucoup. Je m'ennuyais. C'était pas du tout une source de développement. Et c'est quelque chose qui était vraiment, qui me rendait vraiment triste parce que c'était pas du tout pour ça que je faisais ce métier. Je faisais ce métier pour m'exprimer, pour avancer, pour ouvrir toujours de nouvelles portes. Donc du coup, je me suis retrouvée face à un mur et il n'y avait pas d'autre solution pour moi. Enfin, ça a été assez évident. Alors après, bon, peut-être que je viens d'un milieu où c'est peut-être plus évident pour moi. Mes parents sont bouddhistes et j'ai peut-être...
C'est vrai?
Ouais.
Tes parents sont bouddhistes?
Ouais. Donc,
Tes parents sont bouddhistes pour quelle raison ça vient d'où?
Parce que
moi, c'est marrant parce que ma mère a vécu dans un centre bouddhiste et j'ai vécu avec elle un an quand j'étais petit. Je suis pas du tout bouddhiste hein, pour le coup, mais
je pense que c'est une philosophie, une manière de penser. C'est pas une religion, c'est plus une philosophie de vie. C'est quelque chose qui est qui fait résonner différemment. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris moi de rien attendre des autres, de se créer soi-même ses propres opportunités et d'être en permanence dans la recherche de quelque chose qui pourrait nous faire avancer ou qui, de pas attendre quoi que ce soit. Je pense que c'est pareil, c'est comme dans toutes les grosses entreprises. Je pense que si on attend un cadeau du ciel ou un cadeau, il y en a, ça marche très bien comme ça. Ils ont une carrière toute tracée. On va tout leur servir sur un plateau d'argent. Ça existe.
Ça, ouais, ça doit exister.
Tout le monde en connaît des gens qui, d'apparence, réussissent tout d'un coup de baguette magique.
Oui, c'est d'apparence. C'est que souvent, on n'a pas aussi le...
Non, mais exactement. Donc, je pense qu'il faut se méfier de tout ce qu'on peut nous dire ou quoi que ce soit. Enfin, je pense qu'il faut faire son propre parcours et être acteur.
Dans l'action. Vraiment
acteur de sa vie. Voilà.
Est-ce que ça peut... En plus, j'ai l'impression que si tu es dans l'attente d'événements externes qui vont te débloquer, c'est là que ça peut créer des frustrations ou des sentiments d'injustice. Par exemple, mettons que je sois danseur, ce qui n'est pas du tout le cas. Je suis vraiment le plus mauvais danseur que je connaisse. Mais je changerai ça. J'ai le temps. Mettons que je sois danseur à l'opéra et que j'attende qu'une porte s'ouvre. Et ben, il suffit que mon collègue, je ne sais pas comment vous dites, et lui, une opportunité que je n'ai pas eue pour ressentir une énorme frustration.
Bien sûr.
Et ça doit créer des mécanismes de jalousie ou de concurrence qui sont...
Mais ça, c'est partout pareil.
Oui, voilà,
je pense
ça.
Qu'il n'y a pas... C'est pas
Mais toi, c'est des choses que tu as pu ressentir à un moment ?
Oui, c'est des choses que j'ai pu ressentir et qui sont des sentiments que je n'ai pas... que j'aime pas être jalouse de quelqu'un ou j'aime pas me sentir j'aime pas l'injustice, j'aime pas voilà, donc je me suis dit comment raisonner, comment, pourquoi il y a de la jalousie, pourquoi il y a de la frustration, et je me suis vite rendu compte que c'était à moi de changer les choses, quoi. C'était à moi de me créer des opportunités, je pense que ça n'avance à rien d'envier. Enfin, je pense que chacun, à l'opéra, c'est flagrant. Enfin, je veux dire, il n'y en a pas un qui a un parcours similaire. Chacun a des évolutions très, très différentes. Il y a des gens qui restent 10 ans dans le corps de ballet et puis d'un coup qui explosent. Mais pourquoi ? Parce que d'un coup, il y a quelque chose qui... il y a un lâcher-prise qui se fait, mais pas un lâcher-prise dans le... lâcher-prise dans ne plus rien faire ou ne plus travailler. Lâcher-prise dans la stratégie personnelle. Il y a quelque chose qui est très je pense qu'on n'avance pas en se créant des stratégies machiavéliques personnelles. Je pense que ça ne marche pas, ça. Je pense qu'il faut juste lâcher prise sur tout ce qui est voilà stratégie et se laisser un petit peu guider par des opportunités, des rencontres, des choses peut-être auxquelles on n'avait pas pensé.
Est-ce qu'il faut lâcher prise aussi sur les Par exemple, tu as été nommée danseuse étoile. Est-ce que c'est le genre de chose sur lequel il faut lâcher prise ? Est-ce que tu as plus de chances de devenir danseuse étoile si tu ne penses pas tous les jours à être danseuse étoile ?
Ah bah ça, moi, c'est clairement... ça a été clairement ça. Je suis restée 5 ans première danseuse. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je n'arrive pas à accéder à ce grade-là ? Mais je ne voyais pas du tout les choses... Alors ça, c'est peut-être ma philosophie de vie aussi. Je ne voyais pas du tout les choses comme c'est injuste. Je me disais, qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce que je n'ai pas ? Pourquoi j'arrive pas encore, moi, en scène, à exprimer pleinement ce que je pense ? Pourquoi...
Tu sentais que t'arrivais pas à exprimer
Oui, il y avait quelque chose en moi qui ne se débloquait pas. Je n'arrivais pas à trouver la clé. C'était pas du tout une question de direction ou de quoi que ce soit. C'était moi, intimement... J'avais une barrière qui faisait qu'à chaque fois, je me protégeais. Je suis comme ça dans la vie, souvent. Je me protège pour ne pas souffrir. Et donc, je fais toute une sorte de... Voilà, des espèces de barrières que tout le monde se met pour se protéger qui sont un frein terrible quand on est artiste. Parce que comment voulez-vous toucher les gens en scène si vous mettez des barrières ? Et en fait, ça a été une grande expérience. J'ai fait un ballet qui s'appelle Le Sacre du Printemps de Pina Bausch, où on est nu au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que c'est vraiment un ballet où on rentre dans une transe impressionnante. La musique de Stravinsky, elle est très très forte. Et cette chorégraphie vous pousse à aller. Vous ne sentez plus du tout. Vous ne savez plus du tout. Vous ne sentez plus du tout de douleur corporelle ou quoi que ce soit. C'est une telle transe, il y a un solo qui est très très long, qui dure à peu près 5-10 minutes, qui est très très intense, et vous perdez totalement le contrôle de vous-même, mais totalement. Et à la fin de ce ballet, la première fois que je l'ai dansé, je me suis dit, bah voilà, c'est ça en fait. C'est ça que tu cherches depuis 5 ans, que t'avais toujours pas réussi à trouver. Là, je me suis dit, c'est la première fois en scène où je me suis sentie libérée de quelque chose, où j'étais vraiment... parfaitement moi-même, en oubliant complètement que j'étais en représentation avec un public, etc. Et depuis ce jour-là, ça a débloqué beaucoup de choses. Et en effet, quand tu me demandais est-ce qu'on arrive au titre d'étoile en se disant tous les jours je veux être étoile, ben non, justement. Je pense que je pense que ça doit être une évidence. C'est-à-dire que je pense que ça doit être quelque chose qui arrive à un moment dans une carrière. Ça peut être à 19 ans, ça peut être à 20 ans, ça peut être à 25 ans. Moi, c'est à 28. Ça a été à 28 ans. C'est arrivé comme quelque chose d'une suite logique. C'est-à-dire que j'étais plus du tout dans l'attente de ce titre. J'étais dans quelque chose de... Voilà, j'essayais de me trouver. J'essayais de... Voilà. Et ce spectacle où j'ai été nommée, ça a été un moment de plénitude. Enfin, ça a été vraiment un moment où je me suis sentie moi-même, où je me suis pas jugée, où j'ai été vraiment à la fin du spectacle, je me suis dit voilà, j'étais contente, ça m'arrive rarement, et j'étais vraiment heureuse. J'avais profité du spectacle à 100%. J'avais pas une once de stress, ça s'est envolé tout de suite. C'est des moments magiques, vraiment. Ce soir-là, ça reste gravé dans ma mémoire parce que c'est un moment vraiment, voilà, c'est très intense, très fort. J'ai l'impression que ça a duré 5 minutes et en même temps, je pourrais en parler pendant des jours. Ça a été un moment, ouais, une espèce de, je sais pas, d'alignement où il y a quelque chose qui s'est produit où vous êtes en parfaite adéquation avec ce que vous pensez, ce que vous faites. Et du coup.
C'est ce que les Américains appellent l'état de flow, je crois.
Bah, peut-être.
Le flow state.
Ouais, non, mais c'est quelque chose qui est assez incroyable. Et je pense que c'est pas des choses qu'on vit tout le temps. Mais je souhaite à tout le monde de le vivre une fois, quoi. C'est quelque chose qui est, et à la fin du spectacle, j'ai même pas pensé à la nomination. Je me suis pas dit une seule seconde, je veux ce titre, voilà, c'était pas du tout ça. C'était quelque chose.
C'est quand même un changement d'état d'esprit. Enfin, il y a un changement d'état d'esprit un petit peu, quoi.
Ah, il y a eu clairement un changement d'état d'esprit. Et c'est quand j'ai changé d'état d'esprit que ce titre est arrivé. Donc, là où quand je dis que c'est pas forcément par le chemin qu'on imagine qu'on arrive à nos buts ou à nos objectifs.
Qu'est-ce
moi,
que t'en tires
clairement été ça.
Qu'est-ce que t'en tires du coup comme leçon, toi, là, de ça, justement?
Je tire comme leçon que c'est que finalement, c'est pas du tout, c'était pas du tout écrit que je sois étoile. C'était juste saisi, enfin que ça, c'était juste en saisissant des opportunités qui se sont présentées à moi, qui au fur et à mesure, en 5 ans, ont abouti à ça. Ça aurait pu être beaucoup plus rapide, ça aurait pu être beaucoup plus long, ça aurait pu aussi ne jamais arriver. Mais ça n'aurait rien changé à ma démarche personnelle de saisir des opportunités, de m'améliorer, de grandir dans mon métier. Je pense qu'on n'a pas besoin d'un grade pour... Alors après, bien sûr, c'est une énorme reconnaissance et c'est incroyable ce qui m'arrive en ce moment. Je suis ravie. Je suis ravie de tout ça et c'est... Et oui, ça change le regard des autres.
Mais ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que ta démarche personnelle, en fait, elle doit être indépendante de... comment dire, des marqueurs de réussite externe, en fait.
Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est...
Il y a une grosse notion de plaisir aussi dans ce que tu dis.
Ça va être très bateau ce que je vais vous dire, mais on oublie souvent que c'est pas le résultat ou la fin en soi qui est importante, vraiment. Enfin, là, moi, je l'ai clairement compris. Enfin, c'est vraiment le chemin, comment vous y arrivez, ce que vous apprenez en chemin, les portes que vous prenez en chemin, les connaissances que vous faites, le tri que vous faites aussi parfois par rapport à des gens qui vont vous blesser ou qui vont freiner par exemple quelque chose en vous ou qui vont vous atteindre. Vous comprenez avec le temps comment vous entourez, à qui vous pouvez faire confiance, quelles sont les choses que vous avez envie d'encore d'améliorer, quels sont vos points faibles, comment ça peut devenir des atouts. Voilà, c'est toutes ces questions que je me pose depuis que je suis toute petite. J'ai même pas résolu, je pense, un dixième de toutes les questions que je me pose. Et je pense que ça va venir avec le temps, mais toujours dans cette démarche-là. Pas du tout dans la démarche d'acquérir ou d'avoir un grade ou une, voilà, je pense que si on fait tout par rapport à la reconnaissance des autres, on se perd en fait. Je pense qu'on se perd tout simplement.
En parlant justement des gens autour de toi, tu trouves qu'il y a est-ce que tu as l'impression qu'il y a des points communs entre les gens qui ont réussi à passer l'école, à ensuite entrer dans le corps de ballet et ensuite à avoir une carrière
Par rapport aux étoiles de l'Opéra de Paris?
Est-ce que dans les gens qui sont entrés dans le corps de ballet et ensuite ont fait une vraie carrière dedans, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un point commun par rapport, je sais pas, à ceux qui auraient pu arrêter ou partir ou rater ou...
Bah justement, je pense que le point commun, c'est qu'il n'y a pas de bonheur lié à un grade, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des danseurs qui sont parfaitement épanouis et qui ont vécu la carrière qu'ils voulaient vivre et qui sont quadrilles. Voilà, qui ont fait du corps de ballet toute leur vie, mais qui sont très épanouis et qui sont des danseurs qui ont été en permanence dans la recherche et qui ont été en permanence dans s'ouvrir des portes, avoir des opportunités ou danser ailleurs ou faire des projets ou être chorégraphe ou être... Voilà, je pense que... Et il y a des étoiles qui sont déterminées, qui ont toujours voulu ça et qui ont toujours voulu être au devant de la scène. Moi, j'ai toujours rêvé de ça. Depuis que je suis toute petite, je voulais être devant. Enfin, je voulais porter des rôles, je voulais raconter des histoires. Je voulais porter un balai sur mes épaules. Je voulais être devant. Je voulais exprimer. Voilà. Ça, je pense que c'est différent à chacun.
C'est dans ta personnalité, ça.
Je sais pas si c'est dans ma personnalité. Je pense que, en tout cas, c'était pour moi, c'était étant donné que je rêvais d'interpréter les grands rôles du répertoire classique, voilà, il n'y avait pas d'autre moyen pour moi, dans ma tête, d'interpréter ces rôles-là si j'arrivais pas à devenir soliste. Donc oui, pour moi, ça a été évident. Et je pense que si ça n'avait pas été à l'opéra, peut-être que j'aurais ouvert d'autres portes, j'aurais pris d'autres décisions. Je ne sais pas. Enfin, voilà, j'ai 28 ans. Ça arrive à un moment parfait pour moi où j'ai dansé des seconds rôles, où je commence à avoir fait le tour de ces seconds rôles-là et où j'avais envie de danser des rôles. Moi, j'ai énormément de chance. Enfin, à chaque fois, les choses sont arrivées au bon moment pour moi et je suis très, très reconnaissante de tout ça. Après, si ça n'avait pas été le cas, si ça avait été différemment, j'aurais pris d'autres décisions. Je serais peut-être partie, j'aurais peut-être pris une année sabbatique, j'aurais peut-être exploré de nouvelles pistes, je serais peut-être revenue plus forte, je serais peut-être revenue avec d'autres bagages et peut-être que ça se serait passé plus tard à l'opéra. Je sais pas ce qui se serait passé, mais il y a tellement de possibilités. Je veux dire, là, je suis danseuse d'étoile de l'Opéra de Paris. Je suis ravie, j'aime profondément cette maison. C'est normal, c'est eux qui m'ont formée. Je suis très attachée à cette maison parce que j'y ai grandi et que forcément, j'ai... symboliquement, ça a énormément de valeur pour moi et je suis pas sûre de réussir à être très objective. Pour moi, c'est la plus belle maison et c'est là où je voulais être et c'est là où je voulais danser. Après, si ça avait été différent, si j'avais pas été nommée étoile, j'aurais peut-être fait d'autres choix de vie. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que l'Opéra de Paris. Bien sûr, je pense qu'il y a il y a 50 milliards de possibilités à chaque fois. On n'est jamais face à un mur. J'y crois pas une seule seconde. Moi, je crois pas qu'on est bloqué dans une situation. Je crois pas. On est bloqué devant une situation si on n'arrive pas à changer d'angle, quoi.
Si on n'arrive pas à penser à une autre façon d'avancer, quoi.
Bah, je pense qu'à partir du moment où on est bloqué, c'est obligatoire de se forcer à réfléchir différemment.
C'est un conseil qu'un type m'avait donné, dont je me souviens, je sais pas pourquoi je me suis souvenu longtemps de ce truc. J'étais à San Francisco en stage, et vraiment à l'époque, je voulais absolument être entrepreneur, et j'avais rencontré un type de Google ou de Facebook, un type assez important. Et je l'avais vraiment rencontré 15 minutes dans un Starbucks parce que mon boss lui avait demandé de me rencontrer. Et je m'étais en plus rendu compte que ce dont je lui parlais, c'était vraiment pas très sérieux, quoi. Et lui, il m'avait dit, de toute façon, tout ce que tu me dis, ça n'a aucune importance. Le seul truc qui est important, c'est que tu restes jamais bloqué, en fait. Parce que moi, je lui disais, mais là, je peux pas monter une boîte parce que je sais pas coder, je sais pas programmer, je sais pas faire ci. Et il me disait, non, mais c'est pas important, en fait. Parce que tant que tu restes pas bloqué et que t'avances, ça, tu vas finir par arriver là où tu veux arriver, en fait. Mais peu importe le chemin, quoi.
Non, mais bien sûr, c'est ça, peu importe le chemin. C'est peu importe le chemin et c'est vraiment... c'est très important de continuer à évoluer. C'est en permanence, sur d'autres domaines, pas forcément... Enfin, sur plein... Il y a tellement de paramètres pour être une bonne danseuse. Il y a plein de paramètres. Il y a des paramètres techniques, il y a des paramètres artistiques. Il faut se nourrir d'autres choses. Il faut aller voir des expositions. Il faut parler avec des gens.
Tu sais que tu arrêtes d'avancer? Est-ce que ça t'est arrivé de te dire... Là,
Quand je m'ennuie. Quand je m'ennuie, je me dis, là, il y a quelque chose qui va pas. Quand je m'ennuie, je me dis il faut fixer d'autres objectifs ou il faut c'est très rare en fait finalement, c'est très rare parce que dès que je m'ennuie, j'essaie de me dire bon bah alors qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu t'ennuies, c'est pas normal.
Et tu te fais un peu régulièrement tu te dis est-ce que je m'ennuie ou
bah
ou plus tu le sens quand ça arrive.
Je le sens, ouais. Je le sens parce que d'un coup je suis en perte de vitesse, je me pose moins de questions, je me contente des choses quand ça m'arrive de 3 jours de me contenter.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'intéresse.
Me contenter?
Ouais.
Trouver que finalement tout va bien. Que voilà, ça, je pense que quand je me dis pendant plus de 2-3 jours, oh bah tout va bien, j'ai pas vraiment de projet, voilà, que je reste. Alors c'est des moments qui me font du bien parce que c'est agréable aussi de pouvoir se reposer, de pas être toujours dans un tourbillon, voilà. Moi je suis hyper active donc forcément ça me fait du bien, hein, 2-3 jours où je me repose et je fais un peu le vide. Mais il faut pas que je sais que chez moi, après je pense que chacun est différent et il faut trouver sa propre façon d'avancer. Mais moi je sais que chez moi c'est pas bon quand ça dure trop longtemps.
Donc, ton état idéal c'est un état de légère insatisfaction en quelque sorte.
Bah
qui fait que t'es toujours un peu.
Je dirais pas insatisfaction, je dirais ne jamais se contenter de ce que j'ai ou de.
Ouais. C'est naturel chez toi ou c'est un effort de te dire alors ah bah là je suis contente. C'est pas bien que je sois contente et te dire ok comment je fais pour maintenant encore m'améliorer.
Non, c'est pas un effort et puis j'apprécie être heureuse. Hein. Je suis pas en permanence en train de me dire que tout va pas bien. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est justement rester toujours très positif et essayer toujours d'aller plus loin. C'est tout. Enfin, là, je suis étoile de l'Opéra de Paris. Et voilà,
mais
comment
quoi,
aller plus loin maintenant?
C'est quoi plus loin?
Bah, plus loin, c'est aller plus loin dans la recherche des rôles, c'est aller plus loin dans ses sensations, c'est aller plus loin, c'est peut-être développer d'autres projets, c'est peut-être aussi voilà, ouvrir de nouvelles portes grâce à ce titre, parce que ça ouvre énormément de portes pour plein de projets, pour des projets caritatifs, pour des projets pour faire venir plus de gens à l'opéra, pour pouvoir s'exprimer, pour faire connaître mon métier, pour faire peut-être des chorégraphies, pour lancer des projets avec d'autres artistes, avec des peintres, avec des... Voilà, enfin, ça ouvre énormément de portes, ce titre. Bien sûr que ça ouvre des portes et ça me donne plein d'idées. Il faut que je fasse le tri parce que j'ai toujours en permanence des milliards d'idées. On peut pas tout faire dans une vie, hein, donc il faut faire des choix, etc.
Comment tu fais d'ailleurs pour dire à quoi est-ce que tu dis non? Comment tu fais pour savoir si tu dis non à quelque chose? Parce que du coup, maintenant, tu dois être beaucoup plus sollicité, enfin, très sollicité.
Oui, bien sûr. Forcément, ce titre amène aussi beaucoup de sollicitations extérieures et j'essaye de répondre à tout le monde et j'essaye d'être le plus disponible possible. Après, forcément que je dois faire des tris et que je suis obligée des fois de dire non parce que ma priorité, c'est quand même mon métier et c'est de danser. Donc forcément, voilà, ma priorité, c'est ça.
Il y a la place pour combien de choses, en fait, selon toi? C'est un peu une question que j'ai en ce moment où je fais, on va dire, ce podcast beaucoup et un autre truc que je commence à faire qui commence à prendre de la place. Mais et du coup je me retrouve à, parce que j'ai vraiment décidé que c'était mes priorités absolues et je me trouve à dire non, mais à vraiment, en fait maintenant je dis non par défaut quoi. Quelqu'un me propose un truc, je dis non, et après vraiment si j'y réfléchis longtemps et que j'arrête pas d'y penser, je vais peut-être finir par dire oui ou m'y intéresser. Mais presque, il y a une frustration, j'ai l'impression, je me sens un peu coupable, tu sais. J'ai l'impression de toujours dire non à tout le monde en ce moment.
Moi, c'est pas moi j'essaie juste de trouver un équilibre, c'est-à-dire que du moment que j'arrive à faire les choses bien, enfin comme j'ai envie de les faire, en prenant le temps de les faire. Par exemple, répondre à ce podcast, voilà, enfin voilà, parler ensemble et faire voilà, faire ce podcast et tout ça, ça me fait très plaisir et j'avais envie d'avoir le temps pour le faire. J'ai pas envie d'être pressée pour le faire. Si on me propose quelque chose juste enfin voilà, si on me propose quelque chose d'autre, ma priorité ça va être de répondre et de passer voilà, ce temps-là avec toi parce que je l'ai décidé et parce que ça me faisait plaisir de le faire. Après, si c'est pour me mettre 4-5 jours à faire des interviews et ne plus prendre aucun plaisir et tout faire mal, je pense que là, en effet, ça n'a plus aucun sens. Je pense qu'il faut trouver un équilibre entre sa vie de famille, moi je parle par exemple ma vie de femme, sa vie de famille, sa vie de femme, sa vie professionnelle, le temps qu'on accorde à tout ce qui est extérieur, aux expositions, se nourrir.
T'as l'impression de sacrifier des choses, toi, ou pas?
Non, justement, j'ai jamais le sentiment de sacrifier des choses parce que j'essaie de le faire en harmonie avec le temps que j'ai et je culpabilise pas à dire non à quelque chose si je n'ai pas le temps ou si je sais que je vais le faire mal.
T'as jamais culpabilisé ou t'as dû apprendre à ne plus culpabiliser?
J'ai appris. Alors, à ne plus culpabiliser. Parce que je me suis rendu compte que c'était pas constructif de dire oui à tout, tout simplement. Je me suis rendu compte que bah, quand on n'a pas le temps et que c'est une source de stress de faire tout, et bah, enfin, en plus, qui a décidé qu'on devait faire tout? Enfin, je veux dire, il faut juste mettre des priorités. Je pense que c'est important d'avoir des priorités sur ce qu'on a vraiment envie de faire, sur le temps qu'on a. Et le faire bien avec avec honnêteté, avec humilité et avec en faisant un don de soi pour les interviews par exemple, en étant vraiment en étant respectueux de ce que tu fais et voilà, enfin moi j'avais pas envie de le faire mal. Si j'accepte de le faire, c'est que j'ai envie de le faire de manière sincère et honnête.
Donc ton exigence de la, ça c'est une question que je voulais absolument poser que j'ai failli oublier. L'exigence que tu as finalement construite et développée à travers la danse, elle s'applique à d'autres choses du coup maintenant?
Oui. Disons que l'hygiène de vie que je m'impose dans la danse ou la manière de penser est devenue quelque chose, est devenue ma manière de penser au quotidien. Ça, c'est
une philosophie de vie un peu, quoi.
Oui, c'est une philosophie de vie, c'est une philosophie en danse. Je pense que, par exemple, pour aller loin, il faut savoir se respecter.
Qu'est-ce que ça veut dire, se respecter?
Bah, respecter son corps, respecter ses envies, respecter son mode de fonctionnement. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui est très direct, qui dit souvent ce qu'il pense. Et ça m'a joué des tours des fois. On peut pas toujours en société dire ce qu'on pense, etc., sans filtre, etc. J'ai essayé pendant quelques années de me changer en me disant bon bah il faut que tu sois peut-être un peu plus, il faut que tu fasses plus, que tu pèses un peu plus tes mots. Tu peux pas toujours dire, il faut que tu trouves la manière, etc. Puis en fait finalement je me suis rendu compte que c'est tout simplement pas moi et que je peux pas faire autrement. Donc maintenant, j'essaie de m'exprimer avec un peu plus de douceur et peut-être de manière un peu moins crue des fois, parce que ça peut toucher la sensibilité des gens. Donc j'essaie de respecter la sensibilité des gens, mais j'ai abandonné l'idée de pas dire ce que je pense, parce que ça me correspond pas.
Le naturel revient au galop. Puis même, j'ai une théorie là-dessus qui est que en fait, c'est bien que ça polarise et c'est bien que ça déplaise à certaines personnes, parce que du coup, les personnes à qui ça plaît, on leur plaît dans notre personnalité entière, quoi, sans faire semblant, c'est ça que je veux dire.
Mais c'est ça, c'est que j'ai abandonné l'idée de plaire à tout le monde.
Voilà, c'est ça.
Et je pense que c'est un métier, et ça, c'est la danse qui m'a beaucoup appris ça, et mon métier qui m'a beaucoup appris ça, parce qu'en fait, on ne peut pas plaire à tout le monde. En tant qu'artiste, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde.
C'est même d'ailleurs plutôt mauvais signe si on plaît à tout le monde.
Je sais pas si c'est mauvais signe ou bon signe, en tout cas, moi, j'ai vite compris que si j'essayais de faire plaisir à tout le monde ou que j'essayais de plaire à tout le monde, je perdais mon identité propre, et du coup, je perdais mon identité, ma manière de m'exprimer et ce pourquoi je fais de la danse depuis que je suis toute petite. Donc en fait, ça s'est fait malgré moi, c'est-à-dire que j'ai abandonné l'idée de plaire à tout le monde.
Et à qui t'essaies de plaire alors? À toi, c'est ça?
J'essaie de plaire à personne, j'essaie d'être le plus proche et le plus honnête avec moi-même quand je raconte une histoire, quand je suis en scène. J'essaie d'être le plus honnête possible avec les gens avec qui je parle et avec qui et même par rapport à moi-même, j'essaie d'être le plus honnête possible en scène et dans la vie, en fait. C'est pas toujours simple, bien sûr, parce qu'il y a des moments où on va pas bien, où on est plus triste, où on est plus préoccupé, où on perd quelqu'un qu'on aime, et il y a énormément de facteurs dans la vie, mais je pense qu'il faut avoir il y a énormément de changements dans une vie et on ne peut pas savoir ce qui va nous arriver. Mais en tout cas, je pense que c'est très important. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me sens bien. C'est d'être le plus honnête possible avec les gens qui m'entourent, avec mon métier. J'en ai fait une devise, quoi.
Tu dis parfois, on est moins bien, il y a des choses qui nous arrivent. Comment tu fais pour justement, quand le mental lâche un peu, ou en tout cas est plus faible, comment tu fais pour garder ton niveau d'exigence ou en fait réussir à faire quand même le travail, tu vois, chaque jour?
C'est là où la danse m'aide beaucoup. C'est là où je me rends compte que c'est une énorme soupape pour moi de décompression et de... Voilà, c'est un espèce de... C'est un moyen pour moi d'évacuer, en fait, beaucoup de choses. Pour moi, la danse, c'est quelque chose... Quand ça va pas bien, je mets tout dans la danse ou dans mes spectacles ou dans ma manière de composer ou de d'interpréter les rôles. En fait, je me sers complètement de tout ce qui m'arrive au quotidien dans mon art. Donc
c'est sans ressortir quand tu danses, etc., c'est ça?
Ah oui, il y a eu des moments dans ma vie où c'était pas forcément évident et je m'en suis servi dans mon art, et ça a été c'est génial, parce qu'en fait, moi, j'évacue comme ça, en fait. C'est mon moyen d'expression. C'est comme ça que je fonctionne. Et c'est pour ça que je peux pas me passer de danser, d'ailleurs. C'est parce que c'est mon moyen d'expression. C'est mon plus beau moyen d'expression.
C'est intéressant. Il y avait dans le documentaire que j'ai regardé, donc, dont j'ai parlé déjà trois fois, il y avait un danseur étoile dont j'ai oublié le nom, qui disait qu'il était devenu père et que justement, maintenant, il dansait avec ça, que ça lui donnait, plus de poids, il disait.
En fait, je pense que chaque artiste...
S'il prenait tout ce qu'il avait dans
sa
vie.
Bien sûr, parce que je pense que chaque artiste, quand vous voyez une danseuse avant qu'elle soit mère et après qu'elle soit mère, il y a un changement qui s'effectue, bien sûr, parce que on se nourrit de notre vie. Enfin, on se nourrit de rencontres qu'on peut faire, on se nourrit de choses qu'on peut vivre dans nos vies sentimentales, dans nos vies familiales, de conflits qu'on peut avoir, on se nourrit de tout ça. Et après, forcément, on est des artistes. Donc forcément, ça se lit après sur un artiste. Et donc, vous faites avec. Il y a une maturité aussi qui ne s'invente pas. Moi, je n'ai pas la maturité d'un danseur qui a 40 ans et qui a déjà fait plein d'expériences. Et il y a un espèce de... C'est comme ça. Enfin, c'est obligatoire. Un artiste se nourrit de ce qu'il vit.
Ouais, ce que tu décris, c'est très similaire en fait à ce que pourrait dire un peintre ou un musicien.
Bien sûr, bien sûr, c'est son moyen d'expression. Mmh. Le musicien qui va composer, il va s'inspirer de ce qu'il vit sur le moment où il le compose. Un peintre, il va peindre avec le plus d'honnêteté possible un tableau qu'il trouve qui lui ressemble. Voilà, un artiste en scène, il va être le chercher à être le plus honnête possible et donc en adéquation avec sa vie, forcément. C'est indissociable.
Je lisais sur l'Opéra de Paris et j'ai cru comprendre qu'il y a un âge limite quoi, de départ à la retraite, c'est 42 ans et demi.
Et oui, malheureusement.
C'est écrit, quoi. Tu ne peux pas danser après 42 ans et demi.
Alors, avant, c'était 40 ans pour les femmes et 45 ans pour les hommes. Et la parité veut que l'Opéra a décidé que c'était 42 ans et 6 mois. Alors, ça peut paraître surprenant de partir à la retraite à 42 ans et 6 mois, mais en réalité, c'est purement c'est pour le bien de la compagnie, en fait, tout simplement. C'est qu'un danseur à 42 ans et demi, c'est compliqué d'aller plus loin. Alors, bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des danseurs qui peuvent... On pourrait faire des exceptions, c'est-à-dire qu'on pourrait demander à chaque danseur... Il y a des danseurs à 37, 38 ans qui ont des douleurs partout et qui auraient besoin de s'arrêter, ou il y a des danseurs à 45 ans qui sont encore capables de danser. Ça, c'est malheureusement, ça, c'est pas du tout. On peut pas vraiment fixer. Il a fallu fixer un âge. Donc cet âge a été fixé à 42 ans et demi, ce qui me paraît bien. Et ce qui permet aussi un renouvellement de la compagnie, et ce qui permet d'avoir toujours des ballets classiques avec des solistes qui sont à la hauteur et qui sont très bien entraînés, qui sont au maximum de leur performance et qui sont meilleurs. À 45 ans, on n'a pas la même forme physique qu'à 30, c'est évident.
Est-ce que ça crée chez toi est-ce que du coup il y a un rapport au temps différent ?
Bien sûr, notre carrière est très courte. On a une carrière qui est très courte. Alors après, on commence très jeune, mais 42
finalement,
ans.
Oui, voilà.
Bah, c'est comme les footballeurs, c'est comme tous les sportifs de haut niveau. Hein. Il y a très peu de sportifs de haut niveau qui passent les 40 ans. La danse, heureusement, on a cette chance d'être peut-être un tout petit peu plus préservé et d'avoir la chance de pouvoir danser encore certaines choses, parce qu'il y a différentes formes de danse. Mais à 42 ans et demi, c'est déjà un bel âge pour arrêter, quoi.
Toi, du coup, c'est quelque chose auquel tu penses dans ta vie de tous les jours, le côté
qu'est-ce que je vais faire après ?
Ou non, pas tellement ça. Plus, est-ce que le fait qu'il y ait une date limite impacte la manière dont tu danses ou tu vis ton art au quotidien ?
Oui,
quoi.
Moi, ça impacte. J'ai parfaitement conscience depuis que je suis petite, ou en tout cas, du moins depuis que je suis rentrée dans la compagnie à 17 ans, que à 42 ans, c'est terminé et qu'il faut en profiter. Et que là en ce moment je vis un peu mes années l'âge d'or, quoi. C'est-à-dire c'est un moment en ce moment où je suis plus mûre que quand je suis rentrée à 20 ans et que j'arrivais mal à gérer mon stress, et en même temps physiquement en pleine possession de mes moyens, parce que là je veux que j'ai pas de douleur, parce que je suis en pleine forme. Et
c'est un
voilà.
Équilibre qui finalement est pas très long, en fait, parce que là t'arrives à un moment où tu dois être... T'as sûrement jamais été aussi performante. Et le corps suit. Et en fait, ça doit pas durer très longtemps, en fait, cet équilibre là en danse.
Après, c'est un équilibre à remettre en permanence. Enfin, c'est un équilibre qui doit se trouver en permanence, même jusqu'à 42 ans et demi. C'est-à-dire qu'après, il y a aussi la maturité qui prend le dessus sur le physique. On a peut-être moins la capacité physique de s'entraîner 8 heures par jour, comme quand on avait 20 ans. Mais en attendant, on a plus de métiers, on a plus d'expérience, on sait mieux gérer notre stress, on a souvent déjà dansé les ballets. Donc du coup, il y a une sorte de maturité et d'entraînement et déjà de réponses à certaines questions qui sont faites. Enfin, il y a déjà des réponses qui sont apportées et on sait comment gérer notre corps. Plus on avance, plus on sait comment gérer nos douleurs, plus on sait comment gérer notre physique, plus on sait comment gérer notre mental. Donc il y a une très grande force aussi. Quand vous passez 35, 36 ans, vous avez une force que n'ont pas... moi, j'y suis pas encore. Mais quand je vois les progrès qu'on fait, quand je vois l'évolution que j'ai faite entre quand j'avais 17 ans, quand je venais de rentrer dans le corps de ballet, et maintenant... Donc en 12 ans, sur la gestion de mon corps, sur la gestion de mon stress, etc., c'est énorme. Donc certes, après le physique, il commence à y avoir des douleurs, etc.
Mais donc ce n'est pas un facteur inquiétant, en fait.
Non, moi, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Après, par contre, je suis parfaitement consciente qu'à 42 ans et demi, c'est terminé et qu'il faut préparer autre chose et qu'il faut voir un petit peu. Pour l'instant, ce n'est pas ma priorité. Parce que j'avais plein de projets, j'ai envie de danser, j'ai envie d'en profiter. Mais par contre, j'ai conscience qu'il faut que j'en profite.
Ouais. Non, plus sans doute. Est-ce que la meilleure manière de préparer l'après, c'est pas de le faire hyper bien maintenant, tu sais ?
Bah, Alors après, c'est un peu particulier dans notre cas parce que à 42 ans et demi, on peut plus faire ce qu'on fait.
Ouais, mais je veux dire, du coup, si tu, par exemple, le fait que là tu sois danseuse étoile crée plein de nouvelles opportunités qu'il n'y avait pas avant, sans doute.
Ah, mais bien sûr.
Si t'es une grande danseuse étoile et que toute ta carrière t'es excellente, et ben, est-ce qu'au moment où t'arrêtes, finalement, t'as pas justement toutes ces opportunités qui ont fourmillé? Et même si tu peux plus danser, en fait, bah, t'as toutes ces choses qui se sont créées, tu vois.
Bien sûr, bah, j'espère. J'espère avoir le choix, j'espère avoir plein d'opportunités, c'est tout ce que je me souhaite. pour l'instant, je sais pas. je sais pas, mais j'espère en tout cas, oui, avoir des milliards de projets, de possibilités, d'idées, et voilà. Mais il n'y a pas de raison pour qu'il n'y en ait pas, en fait. Voilà, je pense que c'est encore. Je pense que ça dépend pas d'être étoile ou pas, ou d'être. Voilà, je pense que ça dépend de comment on y a pensé, de quelles opportunités on saisit et de faire des choix intelligents qui correspondent à ce que l'on pense et à ce qu'on voilà à ce que l'on est quoi et à ce que l'on a envie de faire tout simplement.
Est-ce que tu as dit que tu lisais.
Oui.
Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont beaucoup je sais pas aidé ou et motivé, influencé disons dans ta manière de voir les choses, ta philosophie de vie.
Alors des livres, je pense que c'est un peu, c'est difficile de donner un livre
non,
ou un
pas,
film.
Un livre, des livres que t'as beaucoup offert peut-être ou beaucoup recommandé.
Je pense que c'est très personnel et je pense que dans chaque livre, je tire quelque chose qui me correspond ou qui m'intéresse. Je lis pas non plus que des livres philosophiques ou voilà, ou je lis pas que des grands romans. Je lis aussi, des thrillers, des films. Enfin voilà, je vois des films, des comédies, des voilà. Et je pense que j'ai des conseils comme ça, enfin voilà, je donne des petits conseils de temps en temps où je parle de, j'aime bien échanger et débattre sur des livres. Après, j'ai pas un livre en particulier que je conseille ou que je, ça dépend vraiment. J'adore aller dans une librairie et regarder des quatrièmes de couverture et me dire, ah bah voilà, ça me parle, ça m'inspire, je connaissais pas l'auteur et puis je me retrouve à lire un bouquin que je connaissais pas et finalement à lire tous les bouquins.
Ouais.
Et là, je suis en train de lire un livre sur, de Wayne Biars. C'est un professeur de danse qui a une manière de concevoir la danse qui est très particulière parce qu'il a une vraie pétain. C'est un professeur qui cherche depuis 20-30 ans à ouvrir la danse à d'autres, à aussi des amateurs, à dire que ses cours ne sont pas uniquement réservés aux professionnels. Et c'est très intéressant son bouquin. Et donc c'est si je peux recommander, oui, allez. Un bouquin que je peux recommander en ce moment, si on veut s'ouvrir un petit peu à la danse, c'est très aussi, c'est très pédagogique, c'est très philosophique, ça explique un peu le monde de la danse aussi. Donc c'est un livre de Wayne Biars et c'est magnifique. Il n'y en a qu'un de lui. Donc,
il s'appelle comment? Oui,
ça s'appelle.
Ah, mais j'irai voir, je t'apprécie.
Ouais, voilà. voilà, mais c'est un très beau bouquin. Voilà, donc si je peux en conseiller un sur. Ça reste sur la danse, j'aurais voulu citer autre chose, mais pour l'instant, c'est ce que je dis en ce moment.
Bah, merci beaucoup, Valentine Colasante, d'être venue sur Nouvelle École. Est-ce que les gens peuvent aller te voir bientôt?
Alors, en ce moment, je suis sur une création de James Thierry, le petit-fils de Charlie Chaplin. On fait toute une chorégraphie, enfin, il est en train de chorégraphier quelque chose dans les parties publiques de l'Opéra Garnier. Donc, c'est assez nouveau pour moi. Parce que j'ai l'habitude de danser sur une scène, donc là c'est vraiment dans les parties publiques de l'Opéra Garnier, et ça se passe donc c'est à partir de mi-mai, et c'est à l'Opéra Garnier. Voilà, donc si vous voulez venir me voir, c'est ici que ça se passe.
Et les gens peuvent te suivre peut-être sur les réseaux sociaux.
Bien sûr.
Instagram,
voilà.
C'est ça.
Ouais, Instagram et Twitter.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc @_nouvelle-école. Underscore, c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir 3 recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage 3 choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose,
Si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com/nouvelle-école-podcast et les dons commencent à 2 euros à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Nouvelle école, je donne ça à l'ancienne.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.